Bien bonjour, vous qui avez pris la peine de venir ici ce matin. C'est formidable de pouvoir quand même voir une partie de l'Église face à face. Et je vous salue aussi, vous qui êtes devant votre ordinateur et qui prenez le streaming. C'est aussi une chose extraordinaire de pouvoir garder la distance malgré le confinement. Et je salue aussi ceux qui, sans être de l'Église Lazare, peut-être tombent dessus par hasard ou l'ayant cherché. Nous sommes un dans le Seigneur. Ô notre Dieu, je demande ce matin, au milieu de nous, dans la continuité de l'histoire chrétienne et de l'histoire de l'Église, je demande une intervention puissante et particulièrement précise de ton esprit au milieu de nous pour que ta parole se révèle encore beaucoup plus que tout ce que nous avons pu connaître et recevoir jusqu'à maintenant. Merci Seigneur, tu nous entraînes dans le mouvement qui est le tien, car tu es un Dieu qui bouge. Tu es le même, mais tu marches. Tu nous entraînes avec toi. Amen. Alléluia. Voilà, j'aimerais rebondir un peu sur le message que Christophe nous a donné il y a 15 jours. Vous vous rappelez, si vous étiez là, qu'il a parlé de l'état d'esprit des espions, comme on les appelle, on devrait plutôt dire des explorateurs que Moïse a envoyés en Canaan, alors qu'ils étaient à peine sortis d'Égypte, de l'esclavage. Ils avaient passé par ces événements extraordinaires, l'intervention à travers Moïse de Dieu lui-même qui déploie sa main, fait des miracles extraordinaires parce que quelque chose va se passer. Voilà 400 ans que les Israélites étaient là en Égypte. Au début, c'était assez bien. Ils avaient été accueillis par les Égyptiens alors qu'il y avait la famine. Mais à la fin, ça s'est gâté. Ils sont devenus peu à peu une main d'œuvre dont les Égyptiens tirait exploitation, des esclaves, et finalement c'était même terrible parce que le pharaon avait ordonné que tous les garçons soient supprimés, jetés dans le Nil, parce qu'il avait peur qu'un jour ou l'autre, ce peuple qui avait beaucoup grandi se mette avec d'autres et se retourne contre le pouvoir égyptien. Ils sentaient que ça commençait à vaciller et ils ont entrepris un génocide. Alors là, Dieu est intervenu, comme c'était d'ailleurs son plan de toute façon. Et vous savez ce qui s'est passé? Il y a eu des fléaux, ce qu'on appelle des plaies, une dizaine. La dernière a été la pire parce que ça a été la mise à mort des premiers-nés de tout, hommes et bêtes, sauf les premiers-nés d'Israël. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait révélé qu'il fallait mettre le sang des agneaux, d'un agneau chacun, un par famille, sur les linteaux des portes et ainsi être protégé. C'est ce qu'on appelle la Pâque, qui est un mot en hébreu Pessah, qui veut dire le passage. L'ange de la mort a passé sur l'Égypte cette nuit-là. Mais quand il a vu le sang des agneaux sur les portes, sur les linteaux, il passait sans semer la mort. Et puis ensuite, eh bien, vous savez ce qui s'est passé? Finalement, le pharaon qui s'était endurci contre Dieu a fini par céder et à dire « Allez, partez, 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 on ne veut plus vous voir. Non, il y en a trop, allez adorer votre Dieu comme vous avez dit. » Mais voilà. Et maintenant, ils sont là, ils ont traversé la mer des roseaux que le Seigneur a écarté devant eux et ils se retrouvent de l'autre côté, non plus comme des esclaves, mais ils sont devenus des gens libres, libres. Et ils n'en reviennent pas. Il y a peut-être un mois maintenant qu'ils ont passé la mer et ils ont un peu de peine à se rendre compte de ce qu'ils sont devenus, des gens libres. Alors Moïse dit, c'est maintenant le temps de monter, prendre la terre promise à vos ancêtres 400 ans en arrière. C'est le temps maintenant de vous installer, de vous installer dans ce pays. Évidemment, on est un peu choqué parce que ça voulait dire qu'il devait anéantir les populations qui étaient là. Ça a été un temps très limité. Ça a été un temps dont il n'est plus question dans la Nouvelle Alliance, ça c'est sûr, même dans l'Ancienne. Ça a été un temps particulier où Dieu donnait à ce peuple ce territoire. Alors, Moïse envoie des explorateurs, des gens, un par tribu, donc 12 hommes qui étaient parmi les plus valeureux et les plus influents dans leur tribu, et il leur dit, allez, faites l'exploration, ne vous faites pas trop remarquer, vous êtes 12, ça va, vous allez passer inaperçu, et vous regardez quel est ce pays, comment est-ce qu'il est bon ou pas, gras ou maigre, quels sont les habitants, est-ce qu'ils sont armés ou pas, est-ce qu'il y a des villes, est-ce qu'ils sont fortifiés ou pas, etc. Il les envoie, ces gens parcourent pendant un certain temps ce pays, qui était le pays de leurs ancêtres, et ils reviennent. Et il faut un rapport. Alors, c'est là qu'il y a un clivage. Parce que sur 12 hommes de chaque tribu, il n'y en a que 2. 2 sur 12 qui s'alignent avec le Seigneur, qui sont d'aplomb avec lui, qui sont prêts à obéir au Seigneur et à entrer dans la promesse que ce pays le leur donne. Et il y en a 10 qui font un rapport en disant « Oui, bien sûr, oui, c'est pas mal, oui, le pays, alors il n'y a rien à discuter, Dieu ne nous a pas trompés. Alors ça c'est vrai, c'est super, ce pays que nos ancêtres, qui étaient peu nombreux, quelques dizaines, pérégrinaient à l'époque, 4 siècles avant, eh bien oui, c'est bien ça, c'est bien ce qu'on avait entendu dire. La preuve, on ramène une grappe qu'il faut porter avec une perche, tellement c'est fertile. Et finalement, bon, d'accord, là-dessus, il n'y a rien à dire. Mais, oui, Dieu a dit, oui, c'était vrai, mais alors il faut oublier. Parce que les gens qui sont là-bas, oh là là, oh mais c'est terrible, c'est des géants, c'est des Anakim, c'est des Nephilim, c'est ces géants dont on parlait autrefois, même avant le déluge, ils ne sont pas aussi grands, mais quand même, impressionnants, ils sont armés jusqu'aux dents, ils ont des villes, il faut voir ça, des murailles, des tours, oh là 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 là, nous à côté d'eux, mais c'est de la rigolade, on était des sauterelles, ils pouvaient nous marcher dessus, sans problème, il ne faut même pas essayer, il aurait mieux valu rester en Égypte et avec le petit confort. Bien sûr, il y avait la chicotte, comme on dit, la bastonnade, c'était pas rigolo tous les jours, c'est sûr, mais au moins on avait à manger, on aurait pu mourir là-bas, il y avait des tombeaux. Alors non, On pourrait même mourir dans ce désert, il vaut mieux. Mais alors, affronter ces populations, il faut oublier. Il y en a 2 qui disent un autre discours. Non, levons-nous. Dieu nous a promis, c'est lui qui nous envoie, sa force est avec nous. Devenons des véritables hommes de foi. Nous avons la victoire en main. Josué, on peut dire le collaborateur principal de Moïse, avec Aaron, et Caleb, de la tribu de Juda, fils de Yéphouné. Ces deux-là, Josué était de la tribu d'Éphraïm, et Caleb était de la tribu de Juda. Ces deux-là tiennent un discours complètement inverse. Et ils s'insurgent contre cette espèce de menée d'une majorité. Et pour une fois, c'est la minorité qui a raison. Alors, vous savez comment ça continue. Le Seigneur dit, mais jusqu'à quand ce peuple sera-t-il toujours rebelle? C'est maintenant le moment. Pendant 400 ans, il ne s'est rien passé. On a juste transmis le souvenir de ce qu'avaient dit les patriarches Abraham, Isaac et Jacob. On a juste gardé ça comme une espèce de souvenir. On s'est un petit peu raconté les histoires de cette époque-là. Voilà 400 ans que vous avez passé comme des esclaves en Égypte, et maintenant c'est l'heure pour le bébé d'accoucher. Et vous dites non. Et vous voulez garder le bébé encore combien de centaines d'années dans le ventre de sa mère? Vous avez déjà vu des bébés qui sortent à l'âge de 45 ans avec la moustache, avec la barbe, avec... Vous avez déjà vu ça? Eh bien, c'est un peu ça que... C'est incroyable, quoi. Alors, le Seigneur lui dit, bon, le Seigneur, il ne va pas les forcer. Ce n'est pas dans la méthode de Dieu de forcer les personnes qu'il a créées à son image, avec un libre arbitre, avec une libre décision. Il ne va pas les forcer, il ne va pas leur dire, allez-y, 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 un coup de pied dans les fesses. Ce n'est pas sa méthode. Et il ne va pas non plus les faire retourner en Égypte sous l'oppression des pharaons. Ça, il ne veut pas non plus. Parce que ça, ce n'est pas du tout son plan. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? La sagesse de Dieu éclate là. Il va distendre cette période qui devait être une période de transition entre l'esclavage de l'Égypte et la liberté du royaume qu'ils allaient former en Canaan, pour la gloire de Dieu, pour faire une ébauche du royaume de Dieu à venir. Il va donc distendre ce temps de transition qui aurait pu, tout aurait pu se passer en 3 mois. Ils auraient pu entrer en Canaan et faire tout ce que le Seigneur avait promis en 3 mois. Eh bien, ça va prendre 40 ans. Ça va marcher finalement, ça va marcher. Dieu ne renonce jamais au plan bienveillant qu'il a prévu. Donc ça va marcher, mais ça va prendre 40 ans, c'est-à-dire une génération. Il leur dit, puisque vous n'avez pas voulu entrer dans ce pays que je vous donne aujourd'hui, eh bien, vous allez mourir dans ce désert. Vous n'allez pas retourner en Égypte, mais vous allez mourir dans ce désert. Et c'est vos enfants qui se réunissent là-bas derrière. Enfin, je ne prophétise pas que vous n'y entrerez pas, ce n'est pas ça. Mais ça s'est passé. Et c'est vos enfants, c'est la génération qui vous suit, qui va entrer dans mon plan et qui va devenir la dynamique d'Israël. Je ne sais pas si on se rend compte. Il n'y en a que deux qui vont échapper à ce traitement. C'est Josué, fils de Noun, et Caleb, fils de Yéphouné. Ces deux-là, ils vont entrer, eux, bien qu'ils soient de cette génération qui devait mourir au désert, ils sont entrés dans le pays promis et ils ont vécu encore assez longtemps pour contribuer à prendre une partie du territoire. Même Moïse et Aaron sont morts avant. Mais ces deux-là, Dieu les a gardés l'œil sur eux. Et ce que je voudrais retenir par rapport à ce qu'a prêché Christophe il y a 15 jours, où il nous parlait de l'état d'esprit de ces gens, c'est très intéressant de voir ça, mais j'aimerais mettre l'accent sur la transition. Cette période qui devait être de quelques mois et qui a duré 40 ans, est une période de transition. Répétez avec moi, une période de transition. C'est très important parce que je suis convaincu que nous vivons une période de transition actuellement. Pas parce qu'il y a la pandémie. Bien sûr, c'est un signe, c'est un avertissement, bien sûr. Mais vous savez, des épidémies, ce n'est pas la première qu'il y a. ce qui est premier, c'est que c'est une épidémie mondiale. Ça, c'est la première fois. Première fois. Toutes les nations du monde sont touchées. Ça, on n'avait jamais vu. Mais il y a eu des épidémies qui ont tué bien plus de gens. Par exemple, à la fin de l'Empire romain d'Occident, au 5e siècle, ou au 4e, je ne sais plus, il y a eu une épidémie de peste qui a décimé le tiers de l'Empire romain. Le tiers, c'est comme si aujourd'hui, il y avait 2 milliards ou 3, 2 disons pour le moment, mais dans bientôt ça serait 3, qui meurent de l'épidémie. On n'en est quand même pas là, c'est presque doudou à côté. Mais enfin bon, il y a quand même, c'est quand même, ça nous marque, c'est quand même un avertissement, c'est quand même planétaire. Bon, mais n'en restons pas toujours avec ce Covid. Des fois, moi, je me dis, mais il y en a marre. On ne va quand même pas parler de ça tout le temps, à toutes les chaînes de télévision, et puis à tous les, ou même dans tous les cultes. Je crois que le Seigneur veut diriger notre regard ailleurs. Il veut que nous voyions ce qu'il va faire et que nous entrions dans une époque où on ne tourne pas en rond dans la terre de l'esclavage et où on ne devrait pas tourner en rond dans le désert en nous contentant, vous voyez, d'une espèce de train-train religieux. Bien sûr, on croit en Dieu, bien sûr, on aime sa présence et c'est clair que c'est très très important, on est d'accord. Mais ça pourrait durer mais des millénaires comme ça. Oh Seigneur, nous voulons ta présence. Oui, d'accord. Mais on ne veut rien d'autre. On continue avec le train-train de ce monde et de la terre. Et puis après, quand on est mort, ben, on va au ciel, puis il paraît que là, ça sera mieux. Mais il ne se passe rien. Il ne se passe quasiment rien. Oui, quelques fois, des époques de réforme, tant mieux, c'est bien. Parfois, quelques réveils, tant mieux, c'est bien. Mais où il n'y a pas une réelle direction. On a chanté tout à l'heure l'espoir, tu es mon espoir. Mais l'espoir de quoi? Est-ce que c'est juste l'espoir que la pandémie s'arrête? Est-ce que c'est juste l'espoir d'avoir assez d'argent pour bien élever notre famille et puis être content parce qu'on a des distractions? Est-ce que c'est ça? Non, ce n'est pas un espoir, ça. C'est du train-train qui tourne en rond tout le temps. Mais le Seigneur n'est pas comme ça. Le Seigneur, avec cette expédition qu'il envoie à ce moment-là, après la Pâque, en Canaan, il les envoie pour qu'il se passe quelque chose de nouveau, chers amis. Alors, tout ce qui s'est passé à ce moment-là, qui a été fondamental pour l'histoire d'Israël, dans la Nouvelle Alliance, on peut faire le rapport. Nous ne sommes plus dans cette ancienne alliance-là, nous sommes dans une alliance qui ne concerne pas seulement Israël, mais qui concerne toutes les nations. Et le Seigneur voudrait maintenant que nous, qui avons été choisis d'entre les nations pour être greffés sur le tronc d'Israël, parce qu'Israël continue, lui, il a une vision eschatologique. Si vous lisez la Bible, eschatologique, ça veut dire qu'il voit jusqu'à la fin, la destination finale. Israël, il n'a jamais perdu cette vision. Enfin oui, des fois il la perdait quand même. Mais souvent, vous pouvez lire toute la Bible, vous allez voir que depuis le jardin d'Éden jusqu'au nouveau jardin cité de l'Apocalypse, la Jérusalem nouvelle, il y a une progression. Jamais ils n'ont perdu de vue cela, même s'ils étaient souvent étroits, légalistes, pas tellement aimants des autres nations, c'était peut-être pas encore l'heure. Alors nous, dans la Nouvelle Alliance, on connaît plus de choses puisque Jésus-Christ est venu. Non seulement il est venu pour montrer qui était le visage de Dieu sur la terre à travers un homme, mais aussi il est venu pour apporter le salut, pour apporter le pardon, la grâce, pour nous révéler les dispositions de son cœur. Ensuite, il est aussi venu pour donner sa vie sur la croix et pour ressusciter des morts afin de ne plus jamais mourir et nous faire entrer dans une ère où la résurrection devient une réalité et pas juste une doctrine. Et puis, nous sommes donc bénéficiaires de cela. Mais si nous sommes bénéficiaires de cela, ce n'est pas juste pour notre petit confort religieux avec des envolées célestes de temps en temps. Ce n'est pas juste pour ça. Et puis chacun pour soi. Oui, je me suis converti et j'ai cru en Jésus comme mon sauveur personnel. Ça, c'est une phrase qui n'est pas fausse, mais que les évangélistes du 19e siècle et du 20e siècle aimaient beaucoup. Ils faisaient des appels et puis ils disaient « Qui veut s'avancer devant l'estrade pour déclarer que Jésus devient votre sauveur personnel ?» Bien sûr qu'il est personnel. C'est même le propre de la Nouvelle Alliance de faire que ces choses soient personnelles. Mais le but de Dieu n'est pas d'abandonner la dimension d'Israël qui n'était pas simplement sur le mode individuel, mais qui a toujours été sur un mode collectif. Et je crois que le Seigneur désire aujourd'hui, dans ce temps de transition, de nous faire passer d'une église qui a été fondée au 1er siècle et qui était au départ entièrement juive, on peut dire jusque vers l'an 50, l'église était quasiment peuplée que de juifs et quelques païens. Et puis après, on est entré dans ce qu'on appelle le temps des nations, c'est-à-dire que l'Église est devenue internationale, comme ça avait été promis à Abraham déjà, pour que toutes les nations bénéficient de cette extraordinaire nouvelle et réalité qui s'installait là, que les nations allaient être incluses avec Israël dans le plan de Dieu. C'était donc plus une affaire individuelle. Moi, je soupire après une hymnologie de nos chants qui reviennent un peu plus comme ça l'était autrefois, quand on avait encore des psautiers un peu à l'ancienne, où on parlait pas seulement de moi, mon sauveur, mon salut, mais de nous, le corps de Christ, le peuple de Dieu, et la visée que Dieu a pour nous. Cette visée, c'est la venue du Messie Jésus, non pas pour rester dans le ciel, mais pour descendre sur la terre, notre avenir. Bien sûr, il est dans le ciel, parce que la dimension céleste sera toujours avec nous. Mais cette dimension céleste qui est dans nos cœurs, elle doit se traduire sur la terre. Sur cette terre, elle sera renouvelée, c'est entendu. On ne va plus trouver toutes les turpitudes, les guerres et les violences et les méchancetés et les désordres que l'on y trouve encore aujourd'hui. Ça, c'est vrai. Mais c'est quand même bel et bien sur le monde présent, terrestre, maintenant, que le Seigneur revient établir son royaume. Et il nous dit, maintenant, c'est l'heure. Ça a été le temps des nations, d'accord. Vous avez multiplié, d'accord, vous avez passé de quelques centaines de convertis au temps où Jésus est ressuscité jusqu'à environ, c'est difficile de chiffrer, mais on dit des fois 2 milliards, parce que sur le papier, il y a 2 milliards de gens qui mettent une croix sous religion, ils vont mettre christianisme, bon d'accord, mais on sait bien que c'est pas... Le Seigneur a toujours fonctionné avec un reste d'Israël, un reste de l'Église des nations. Moi, je dirais peut-être 600 millions de chrétiens nés de Dieu, nés de nouveau, qui pratiquent comme des disciples. Je ne sais pas, mais ça doit se tenir autour de 600 à 700 millions. C'est déjà pas mal. Mais que font ces 600 ou 700 millions de personnes sur la terre? Ça suffit pour bouleverser le monde. Dieu peut très bien se servir de quelques dizaines ou centaines de millions pour bouleverser le monde. Et c'est ce qu'il voudrait faire. Et il nous dit maintenant, qu'allez-vous faire? Le temps est venu de faire naître ce nouveau royaume et de accueillir le Seigneur qui vient. Jésus, alors, nous sommes à une croisée des chemins. On pourrait dire, oui, mais est-ce qu'il y a encore... La sortie d'Égypte, ça a été la grande transition qui a fondé le peuple d'Israël. OK. Il y en a eu encore d'autres avec la royauté davidique et tout ça, l'exil à Babylone. Il y en a eu d'autres. Mais là, c'est fondateur, d'accord. Aujourd'hui, pour nous, la grande transition, elle est venue avec Jésus-Christ qui est venu la première fois. Là, il y a eu une transition absolument bouleversante qui a créé un peuple nouveau dans toutes les nations, à peu près. Alors, est-ce qu'il faut attendre une nouvelle transition qui serait bouleversante pour le monde? Du point de vue fondamental, non. Tout a été fait, il n'y a rien à rajouter. Donc, en principe, on n'a pas à attendre une nouvelle révélation avec une nouvelle sacrifice expiatoire, avec une nouvelle résurrection d'un Messie ou d'un autre Messie ou du même, parce que ça a été fait. Mais moi, je crois que quand on lit la Bible attentivement, pas juste un psaume ici ou là, hein, pas juste un petit machin édifiant sur un calendrier qu'on met sur un clou, pas ça. Je ne suis pas contre ça. Je ne suis pas contre les calendriers avec juste un verset. Mais c'est pas... Non, il faut quand même un peu plus que ça. Il faut lire la Bible du début à la fin, tout. Puis une fois que vous avez tout lu, il y a peut-être certains passages avec des détails de sacrifice. Vous pouvez peut-être laisser tomber parce qu'on n'est plus dans ce régime-là. Il y a des généalogies qui sont très importantes pour Israël, moins pour nous. Vous pouvez peut-être sauter ces pages-là. Mais pour le reste... quand vous lisez la Bible attentivement, avec le fil rouge qu'on peut y trouver, le fil conducteur, et que, en même temps, vous observez ce qui se passe, moi je dirais depuis le début du XXe siècle, je dirais ça, spécialement depuis le début du XXe siècle, vous vous rendez compte que le Seigneur est en train de remettre en marche la dynamique de la terre nouvelle et des nouveaux cieux. C'est comme s'il avait détendu le volet de l'accordéon. Vous savez, un accordéon, hein, il y a du volume si on veut. Quand vous détendez le soufflet d'un accordéon, il emmagasine de l'air, mais ça ne produit aucun son. Et ensuite, quand vous resserrez le soufflet de l'accordéon, le temps est comprimé, si on prend l'image d'accordéon pour le temps. Le temps est comprimé, et là, il produit les sons nécessaires au morceau qui doit être joué, et ensuite, il y a de nouveau, des fois, une période, etc. Donc, si on compare ce que dit la Bible avec un plan directeur, et ce que nous voyons aujourd'hui, nous constatons un certain nombre de choses sur lesquelles je voudrais juste détailler pour arriver à la fin quelque chose qui nous concerne peut-être plus pratiquement. Alors, dans le Nouveau Testament, le Seigneur nous dit, il faut d'abord, pour que ces choses arrivent, que toutes les nations, c'est ça le temps des nations, que toutes les nations aient eu leur fenêtre ouverte avec l'occasion de se tourner vers Jésus-Christ. Et que cela serve de témoignage à tous les peuples. Alors viendra la fin. Matthieu 24, verset 14. Relisez ça. Matthieu 24, verset 14. Aussi dans l'évangile de Marc 13, verset 11. Alors viendra la fin. Il ne viendra pas avant. Le Seigneur ne pouvait pas revenir avant, pas parce qu'il n'aurait pas voulu, il aurait voulu, mais parce que la réponse de l'homme a été extrêmement lente et la réponse de l'homme tournait en rond et Dieu a dû tourner en rond avec nous. C'est comme ça. Il devait se passer, en tout cas, l'évangélisation achevée du monde. On est assez près du but, on est assez près. C'est presque déjà le cas, encore quelques années, peut-être, probablement. La deuxième chose, c'est le retour du peuple juif sur la terre de la promesse. Eh bien, nous assistons surtout depuis 1947-48, où l'État d'Israël a été fondé et proclamé, nous assistons, mais ça avait déjà commencé un petit peu à la fin du 19e siècle et tout au long avec Israël, enfin Canaan, non, pardon, la Palestine, comme on disait, a passé du mandat de la colonisation par l'Empire ottoman, qui a duré longtemps, un empire musulman, au mandat britannique, 1917, déclaration Balfour, Palestine sous mandat britannique. Et puis, il faut encore attendre un sabbat d'année, un jubilé, 50 ans, pour arriver à 1947. Entre parenthèses, le premier congrès sioniste à Bâle, c'était en 1897. C'est marrant, là. Ça tombe sur des 7. 1897, 1917, 1947, 48. Et puis, il y aura encore, une fois que l'État d'Israël est proclamé comme État juif parmi les nations, l'événement de la guerre des six jours en 1967, encore un 7, c'est drôle, qui donne Jérusalem, rentre sous le contrôle d'Israël. Bon, donc ça, c'est un signe qui est impressionnant, qu'on n'avait jamais vu avant. Ça faisait. Bon. Troisième signe, une période de séduction antichristique et d'apostasie comme on n'avait jamais vu. Au XXe siècle, c'est le comble, hein, séduction avec le nazisme en Allemagne et la Hitler, avec le marxisme en bloc soviétique et Staline, et des gens comme ça. On pourrait citer aussi le maoïsme en Chine, avec les millions de morts, en Russie aussi d'ailleurs. On pourrait citer l'islam, l'islam politique en tout cas, avec son faux messie, son faux prophète, pas sur tous les plans, mais en tout cas sur les plans politiques, oui. Il faut le dire carrément. Et puis, ça continue à bien des égards. Donc ça, c'est une période de ce qu'on appelle apostasie. 6 millions de Juifs qui sont gazés dans les fours crématoires, dans les camps de concentration, une des pires choses qui a été faite dans l'histoire du monde, au XXe siècle. Ça, c'était des choses qui ont été annoncées, pas d'une manière à la lettre, mais symboliquement. Elles ont été annoncées symboliquement. Et l'apostasie même dans l'Église. Une partie de l'Église a apostasié. Ils ont peut-être encore le nom de chrétien, mais ils ne le sont plus, il faut le dire. Ce n'est pas pour nous vanter, nous, parce que faisons attention de ne pas le devenir. Et les persécutions, le temps des persécutions, il a toujours existé depuis le 1er siècle, mais là, il est un peu plus fort. Hein, des persécutions beaucoup plus nombreuses, hein, par millions. Bon. Et puis alors, il y a aussi quand même des signes réjouissants, à part le signe que constitue Israël, mais Israël n'est pas encore converti à Jésus-Christ, sauf une minorité qu'on appelle les Juifs messianiques. Mais il y a aussi des événements heureux. Si vous considérez que pendant cette période où il y a deux guerres mondiales, où il y a des choses terribles qui se sont passées, il y a en même temps le plus grand réveil qu'il y ait jamais eu dans l'histoire du monde, c'est-à-dire le réveil de Pentecôte. International, inter-église. International et inter-église. Le réveil de Pentecôte, 1906, 1904, 1906, le pays de Galles, la Californie, à Sousa Street, et le feu a pris un peu partout. Il y avait eu des réveils avant qui étaient très bien, mais là, c'est encore plus. Et ça dure toujours. Et puis aussi, un nouvel élan missionnaire à cause de ça. La redécouverte des dons spirituels, la redécouverte des ministères d'apôtres et de prophètes. Voilà. Et puis la centralité d'Israël. On a pris conscience qu'Israël était le lieu, le centre du plan de Dieu pour les nations. De nouveau, après 1900 ans d'exil, dans toutes les nations, il n'y avait presque plus de juifs en Palestine. Eh bien, voilà que ça redémarre. Voilà, donc ça, c'est des bonnes nouvelles. Alors, je demande, pour reprendre l'image de ce qui s'est passé au temps des 12 espions envoyés par Moïse, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Est-ce que nous aurons, alors que le Seigneur nous dit maintenant, allez-y, c'est le moment de l'assaut, c'est une affaire d'années. Moi, je pense que c'est une affaire d'années. Je pense qu'on ne va pas achever le 21e siècle avant que toutes les choses prophétisées, encore non réalisées ou en voie de réalisation, se produisent. Moi, je pense qu'on a... Ça va arriver avant la fin de ce 21e siècle. Et peut-être plus tôt qu'on ne pense. Mais je me garderai de mettre une date. Est-ce que nous allons avoir suffisamment, dans nos trois générations actuelles, assez d'humilité et assez de foi pour croire que Dieu n'a pas menti et que quand il nous dit « allez-y », entrez dans une nouvelle dimension, ne restez pas des chrétiens qui tournent en rond, comme la chrétienté traditionnelle l'a été pendant beaucoup de siècles. Il y a eu des petits mouvements, il y a eu des choses bien, mais ce n'est pas encore la mesure. Allez-y maintenant, est-ce que nous allons écouter et dire « oui Seigneur, on y va ». Est-ce qu'on va être des Josué et des Caleb ? Ou bien les 10 autres qui se sont dégonflés en disant « oh non, quand même, oh là là, c'est trop pour nous, non, on est comme des petites sauterelles, on n'est rien du tout ». Ou bien est-ce qu'on va croire à la parole de Dieu, se lever et entrer dans une nouvelle dimension, beaucoup plus forte que tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, à part peut-être au 1er siècle, mais même encore plus forte, parce que je crois que la fin sera mieux que le début. Il y a plusieurs passages qui disent ça. Le dernier temple sera plus glorieux que le premier. Alors, il ne s'agit plus d'un bâtiment. Le peuple de Dieu, à la fin, ça sera plus grand et mieux. Malgré l'apostasie, on va perdre beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui vont renoncer, qui vont s'arrêter. Je ne me prononce pas sur leur destin éternel. Ce n'est pas mon problème. C'est le problème de Dieu. Mais est-ce qu'on va être ceux qui se mettent en avant, qui vont poireauter encore 40 ans dans le désert spirituel et qui auront la foi pour aller, ou bien est-ce qu'on va être « oh, c'était quand même bien en Égypte, les oignons, les poireaux, les poissons. » Bien sûr, on nous tapait dessus, c'était pas rigolo, mais ma foi, on s'y fait. Non, on s'y fait pas. Non, on va donner raison au Seigneur. Vous comprenez ce que je dis ? Ça va ? Vous saisissez ? Que nous sommes à la croisée des chemins et que nous sommes à la fin d'un temps de transition. Alors, moi, je termine avec cinq propositions plus pratiques, mais il y en a d'autres, il y en a des quantités d'autres. Je crois qu'il nous faut entrer dans un mouvement non seulement personnel de la foi, mais dans un mouvement, oui, qui reste personnel, bien sûr, mais un mouvement collectif où le corps, l'Église, le corps de Christ donne une réponse ensemble, même si c'est un reste, même s'il y a eu du déchet dans l'aventure, ce reste, ça va marcher. Et d'entrer dans une relation, je dirais, plus amoureuse, pas juste légaliste, mais amoureuse du Seigneur. Nous devons devenir un peuple d'amoureux du Seigneur. Peut-être vous vous dites, mais Jean-Pierre, tu es transgenre ou quoi ? Non, non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Mais avoir un cœur de feu qui devient amoureux. Oh Seigneur, mais tu es non seulement notre sauveur qui nous a sauvés personnellement, mais tu es le roi qui vient. Il y a deux venues dans la Bible du Messie. Il y a la première venue qui a déjà eu lieu pour notre salut. Puis il y a la seconde venue qui n'a pas encore eu lieu pour établir le royaume. Et beaucoup de rois de chrétiens sont restés avec la première venue, c'est tout. Ah Seigneur, merci, tu nous as sauvés. Oh, c'est merveilleux, etc. D'accord. Mais il y a la seconde venue qui doit arriver bientôt. L'Apocalypse, la fin de l'Apocalypse dit, voici, je viens bientôt, qu'on peut aussi traduire soudainement. Comme un voleur, mais nous, pour nous, ce ne sera pas comme un voleur, ce sera comme l'époux bien-aimé qui vient chercher sa fiancée pour nous. Oui, pour les autres, pour ceux du monde, pour les rebelles, ça sera comme un voleur. Et ils vont dire, oh, montagne tombée sur nous. Nous ne sommes pas dignes. Et tu nous as... Bon, la lamentation, quoi. Donc, voilà. Ça, c'est la première chose. Une intimité avec le Seigneur. Un retour à sa parole comme la parole vivante, pas juste des pages imprimées, mais la parole dans nos cœurs, qu'on lit, qu'on assimile, parce qu'il faut quand même lire la Bible. Il y a des gens qui disent « j'ai pas besoin parce que j'ai le Saint-Esprit ». Ah, c'est faux ça. Bien sûr, on a le Saint-Esprit, c'est vrai que c'est l'essentiel, mais le Saint-Esprit est là pour nous faire comprendre la Bible, et il faut que chaque jour nous ayons cette passion pour notre Seigneur, de dire « toi, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, tu nous as donné ce témoignage. Il est ce qu'il est, mais il est totalement inspiré et nous voulons l'écouter attentivement. » Voilà. Un deuxième point, c'est Jésus, à la fois comme sauveur, mais aussi comme Seigneur, aussi comme parole de Dieu incarnée, s'attacher à cette parole. Le troisième point, je dirais, Jésus comme époux de l'Église, nous l'attendons, et cela veut dire, si Jésus est l'époux de l'Église, eh bien, par rapport à nos couples, nous nous devons d'entrer dans une fidélité conjugale plus forte que ça n'a jamais été le cas. Malheureusement, beaucoup de nos couples chrétiens divorcent. Même dans ma propre famille, j'ai un cas comme ça, alors que j'ai une fille qui est merveilleuse, à bien des égards, mais il y a quand même eu. Bon. Et je crois que nous devons dire non, c'est fini ça. Quand bien même il y aurait des difficultés, je prends sur le Seigneur la capacité de nous faire traverser la vie conjugale comme Christ a aimé l'Église, comme dit saint Paul. Malachi, le dernier des prophètes, il a insisté là-dessus, de rester fidèle. Il dit que c'est de la folie de rompre l'alliance que Dieu nous a donnée de vivre quand on s'est marié. Gardons-la. Et donc ça c'est un point. Alors je n'approfondis pas, hein, vous approfondirez vous-même. Et puis encore un autre point qui concerne nos familles, c'est aussi dans Malachi, à la fin, la dernière prophétie de l'Ancien Testament dit que le Seigneur y ramènera le cœur des parents à leurs enfants et des enfants à leurs parents. Spécialement les pères sont concernés. Ramener la réconciliation intergénérationnelle. Il doit y avoir une réconciliation intergénérationnelle. Bien sûr, il est aussi dit, Jésus a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, mettre la division entre le père et son fils, la mère et sa fille, la belle-mère et sa belle-fille. Oui, mais ça ne vient pas de nous, ça ne vient pas du Seigneur, ça vient de la résistance diabolique que le diable d'abord, mais nous aussi, quand on n'est pas fidèles, nous opposons au Seigneur. Ce n'est pas la faute du Seigneur s'il y a des divisions. C'est la faute de notre résistance et de la résistance du monde. Donc, là aussi, le Seigneur vient avec l'esprit d'Élie et de Jean-Baptiste pour rapprocher les générations et faire que ça se passe autrement et que chacun s'entraide. Les plus anciens qui ont l'expérience mais qui n'ont plus la force entraînent les gens d'âge mûr qui ont la force, qui ont un peu d'expérience et encore plus qui encourage les tout jeunes qui n'ont pas l'expérience, mais qui ont de la force, un peu, ça vient. Donc voilà, vous voyez, ça c'est l'intergénérationnel. Alors voilà, je m'arrête là. Ah oui, puis encore un point aussi, reconnaître Israël, qui est en train peu à peu de se tourner vers Jésus à travers les Juifs messianiques, mais dans la grande masse qu'ils ne sont pas encore, sont encore en dehors. Mais reconnaître que Dieu est en train de redonner à Israël une place centrale parmi les nations. Surtout depuis que Jérusalem est sous contrôle juif, c'est un des signes qui a été donné par Luc, chapitre 21. Reconnaître Israël comme notre frère aîné. qui n'est pas encore entré dans la salle des fêtes avec le frère cadet que nous sommes et qui a fait les 400 coups et qui était bébête pendant un moment, mais de reconnaître Israël quand même comme le frère aîné. Et que nous avons besoin du frère aîné pour être des frères et sœurs, pour entraîner le monde, pour cette nouvelle étape qui doit mener à l'avènement du royaume de Dieu. Nous avons besoin d'Israël converti. Et nous devons prier pour Israël, aimer Israël, non pas pour être contre les nations qui sont ses ennemis, comme les Palestiniens, les Arabes, quoique chez les Arabes, ça commence à changer, hein, et puis d'autres nations, mais pour être en faveur de ces autres nations. Israël d'abord, mais aussi ces autres nations, dont la Suisse. Amen. Seigneur, merci. Je te prie d'imprimer définitivement, d'une manière indélébile, dans nos cœurs et dans nos esprits, cette vision de l'histoire et de ton plan avec l'humanité. Le temps est venu. Le temps est venu dans cette première quart du XXIe siècle où mettre fin à ce qui a été un tournage en rond, un train-train pas très stimulant pour entrer dans la conquête de la terre qui nous a été promise. Toutes les nations de la terre seront bénies dans ta postérité. Tu l'as dit à Abraham, à Isaac, à Jacob. Béni sois-tu, Seigneur, parce que cela va arriver et je te prie qu'ici, nous, Église Lazare, nous vivions collectivement, pas seulement individuellement, mais collectivement, cette levée, cette mise debout et cette marche derrière toi dans la sainteté, dans la puissance, dans l'amour, dans la sagesse prophétique. Alléluia. Merci Seigneur. Amen.